L'âge bête sur RCN.
Bonjour, on est dans l'âge bête sur RCN, les 14h, nous enregistrons depuis le lycée Marquette. Salut tout le monde.
Salut.
Vous allez bien, ça va?
Très bien, et toi?
Oh, ça va, hein?
Ah oh, ouais, non, nickel, je sors d'une petite interro de maths.
Ça, c'est top.
SES, pire.
Donc, tout de suite, on écoutera Axel, qui nous parlera du Wendigo.
Ah bah oui, je vais vous montrer que c'est un mythe et en même temps c'est un peu de la réalité.
D'accord. Ensuite, un QCM avec Antonin.
Ah oui, alors un QCM, bon, c'est des questions, voilà, vous avez compris, de culture générale. Et on va bien s'amuser.
Un petit quiz, ça va être sympa. Puis le deuxième Axel, avec des monstres du folklore irlandais.
Bah, je vais continuer un peu la série des monstres de folklore de différents pays.
C'est sympa, en vrai, j'aime bien apprendre de nouveaux monstres. C'est un peu, je sais pas, c'est, des fois c'est drôle, des fois c'est un peu étrange. Et ensuite, on aura Radu avec le processeur photonique.
Voilà, donc je voulais vous faire découvrir une technologie un peu nouvelle sur le marché en ce moment, qui démocratise de plus en plus, qui utilise en fait la lumière pour nos prochains processeurs.
Ok, et ben on est ensemble jusqu'à 14h30, c'est parti.
RCN, l'âge bête.
Et donc tout de suite, Axel.
Eh ben, aujourd'hui, je vais vous parler du Wendigo. Tout d'abord, imaginez-vous dans une forêt immense, glaciale, où le vent hurle entre les arbres morts. Oula. La nuit tombe et quelque chose rôde. Quelque chose d'affamé. Une créature qui n'est plus vraiment humaine. Cette créature, c'est le Wendigo. Aujourd'hui, on va plonger dans cette légende terrifiante venue d'Amérique du Nord. Mais surtout, on va essayer de comprendre ensemble, le Wendigo existe-t-il vraiment ? Alors tout d'abord, la légende du Wendigo. Le Wendigo est une créature issue des croyances de plusieurs peuples autochtones d'Amérique du Nord, notamment les Algonquins. Selon la légende, le Wendigo est un esprit maléfique lié à l'hiver, au froid extrême et surtout à la famine. Il existe deux versions principales de la légende. Dans la première, le Wendigo est une créature monstrueuse, immense, maigre, avec une peau collée sur les os, parfois décrite avec un crâne de cerf ou des bois. Il est toujours affamé, mais plus il mange, plus sa faim grandit. Dans la deuxième version, encore plus inquiétante, le Wendigo est en réalité un humain transformé. Cette transformation se produit lorsque qu'une personne commet un acte interdit, le cannibalisme. Dans les conditions extrêmes, comme un hiver très rude sans nourriture, certaines personnes auraient été tentées de manger leurs semblables pour survivre. Mais selon la croyance, cet acte brise leur humanité et les transforme en Wendigo. Ils deviennent alors des êtres possédés par une faim insatiable, condamnés à errer dans les forêts pour toujours.
C'est alors, rassurant tout ça, dis donc.
C'est rassurant.
On peut se poser la question, est-ce que le Wendigo est un monstre ou bel et bien un avertissement? En réalité, beaucoup de chercheurs pensent que le mythe du Wendigo n'est pas seulement une histoire pour faire peur, c'est aussi un avertissement moral. Dans des environnements où le survivre était extrêmement difficile, le cannibalisme pouvait devenir une tentation en cas de famine. Le mythe du Wendigo serait donc à dissuader les gens de franchir cette limite. En gros, si tu manges un humain, tu perds ton âme. C'est une manière très puissante d'imposer des règles dans une société.
En vrai, c'est pas mal parce que... Bah, c'est pas mal. C'est ouais. Pas très rassurant.
Ouais, c'est pas mal. Ouais.
Mais la morale derrière est plutôt... Oui, c'est cool, quoi. Ne mangez pas...
Mangez pas vos copains, s'il vous plaît.
Voilà, on mange pas les hommes.
Donc ensuite, on a appris qu'il y avait un syndrome qui s'appelait le syndrome du père du Wendigo. Mais ce qui rend cette légende encore plus troublante, c'est que le mythe ne s'arrête pas ici. Des cas réels ont été rapportés. Des explorateurs et des médecins ont décrit un phénomène appelé le syndrome du Wendigo. Des personnes affirmaient ressentir une envie incontrôlable de manger de la chair humaine, même quand elles avaient de la nourriture. Elles avaient aussi la sensation de se transformer en monstre. Aujourd'hui, les scientifiques pensent qu'il s'agit d'un trouble psychologique lié à des conditions extrêmes, isolement, froid, faim, stress intense. Le cerveau, poussé à ses limites, peut créer des hallucinations et des comportements irrationnels. Ce qui est réel, alors soyons clairs. Il n'existe aucune preuve scientifique qu'un Wendigo en tant que créature surnaturelle existe réellement. Pas de traces, pas de preuves physiques, pas de témoignages vérifiés. En revanche, plusieurs éléments sont bien réels. Les conditions extrêmes de survie dans le Grand Nord, les cas de cannibalisme dans les situations désespérées, les troubles psychologiques liés à l'isolement et à la famine. Le Wendigo serait donc une représentation de ces réalités transformées en mythes. Même aujourd'hui, le Wendigo continue d'apparaître dans les films, les jeux vidéo et les histoires d'horreur. Pourquoi ? Parce qu'il touche à quelque chose de profond, la peur de perdre le contrôle, de devenir inhumain. Ce n'est pas juste un monstre qui attaque, c'est un humain qui a basculé et c'est ça qui est vraiment inquiétant. Le Wendigo n'est probablement pas une créature réelle, mais il représente quelque chose de très réel. La peur de la faim, la peur de l'isolement, et surtout la peur de ce que l'on pourrait devenir dans des situations extrêmes. Finalement, le vrai monstre, ce n'est peut-être pas le Wendigo, c'est l'être humain quand il est poussé à bout. Alors, la prochaine fois que tu entends parler du Wendigo, pose-toi cette question, et moi, jusqu'où je serai prêt à aller pour survivre.
Ça me fait penser à un film, mais qui est pris d'une réalité, il me semble que c'est le Cercle des Neiges, où ils étaient dans le froid après un crash d'avion, etc. Et donc, ben, ils ont mangé, et voilà quoi.
Ils se sont mangés, quoi.
Ouais. Ils se sont mangés.
Ça me fait un peu penser à ça, le fait que, parler de cannibalisme, etc.
Oui, ça me rappelle une série, justement, c'est exactement le même plot. Et justement, il y a des apparitions de monstres, mais on sait pas qui c'est, on croit que c'est une des personnes et tout. Et il me semble qu'il y a une tête, mais alors on sait pas trop, mais alors. Je crois qu'il y a des branches et tout, donc c'est vraiment bien sert. Et ça illustre bien ça.
Voilà. J'ai fait mes recherches un peu partout, j'ai vu que ça apparaissait beaucoup dans les jeux vidéo. Mmh. Donc c'est très réputé pour ça. Et c'est tout. Après, j'ai vu qu'il y avait pas mal de livres. Et ça, après, il y a des légendes. Les légendes, voilà.
Moi, je connais un petit jeu justement qui met en place un Wendigo dans l'histoire. C'est Until Dawn. Voilà.
Bah oui, j'ai vu celui-là.
Ah, tu l'as vu ?
Bah oui, c'est comme ça que j'ai commencé mes recherches aussi.
Ah, bordel. Bon, bah voilà, quoi. C'est sur lui.
Donc, bah, c'est cette réaction.
Bon, merci, Axel. C'était intéressant de découvrir encore des nouveaux mythes, etc. Et en plus, il y a des morales derrière, donc c'est cool. Et donc, tout de suite, le QCM.
Le QCM, tout de suite. Alors d'abord... Avant de commencer, j'aimerais parler du mot pendiculé. Est-ce que ça vous dit quelque chose, le mot pendiculé ?
Non.
Ça a un rapprochement avec le mouvement du pendule ?
Non, pas vraiment. C'est bien une histoire de mouvement, mais en fait, c'est par hasard, hein, y a rien à voir avec le film, c'est juste, j'ai pris connaissance de ce mot et c'est vrai qu'il est assez drôle en fait. Vous voyez, quand on s'étire vraiment tous les os, tu vois, le matin, genre, tu t'étires comme les chats où ils font le...
Oui, voilà. Oui, oui, ok.
Bah, c'est ça, en fait, pendiculé. C'est...
C'est s'étirer.
Voilà, c'est s'étirer, mais c'est une réaction du corps aussi qui est...
Pour se réveiller.
Qui est normal, quoi. Voilà, pour se réveiller et puis pas que pour se... Oui, je pense aussi... Principalement pour se réveiller. Bref, pendiculé, retenez bien le mot. Ça rentre dans votre vocabulaire.
C'est bon à savoir, dans une dissertation, pourquoi pas.
Ou dans une réunion familiale, on vous prend pour un philosophe, c'est très bien. Alors, première question, à quelle boisson le mot « oolong » est-il associé ? Alors, si vous savez déjà...
C'est le thé !
C'est le thé, c'est une bonne... Pourquoi je... Bref. Oui, c'est ça, exactement, le thé. Alors, pour le coup, voilà, ça me semblait assez abordable, car... Oui. En vrai, pour les amateurs de thé, voilà, il y en a beaucoup et c'est assez connu. Donc ça vient de Chine, ouais.
Oui.
Et c'est un thé qui est entre le vert et le noir.
C'est très bon, c'est très bon.
Du thé oolong, ouais, il est sympa. J'ai déjà goûté, ouais. Il est intéressant.
De toute façon, tous les thés sont bons, donc.
Alors, c'est très gros.
Ouais, le café c'est mieux, quand même.
Et toi, Axel ?
Moi, j'aime pas le café. Mais je bois pas de thé non plus.
Ok.
Je préfère le cacao.
Lui, bon, ouais,
c'est meilleur. Le bon chocolat.
Ok, alors, question suivante. De quel métal sont faites les plaques qui recouvrent la statue de la liberté ?
Le cuivre.
Le cuivre, et c'est une bonne réponse. On pouvait aussi confondre avec le fer, mais le fer, c'est à l'intérieur.
Non.
Ça s'oxyde pas pareil.
Oui.
Donc ça marche pas.
C'est surtout ça.
Ça marche pas.
Ça serait passé de gris à marron.
Alors que là, c'est vert, et c'est passé de orange à vert.
Parce que c'est les ions, c'est U2+.
Oui, donc c'est pas pareil.
Ah oui, c'est vrai, elle était orange avant.
Okay. La couleur du cuivre, quoi.
Oui, non, mais j'avais oublié, moi. C'était pas une question évidente pour moi, de base. Mais c'est très bien que vous connaissez. Que permet de mesurer l'échelle visuelle analogique EVA, E-V-A ? Alors là, vous ne semblez pas savoir tout de suite, donc je vais donner des propositions. A, c'est la vue. B, la persistance des goûts. C, le bruit. D, la douleur.
Eva.
Moi, je dirais la vision.
La vision.
Visuelle analogique. Mais alors, il y a un petit piège, justement, c'est que ce n'est pas la vue. Et pourquoi ce n'est pas la vue?
Moi, j'aurais dit le bruit, mais en même temps, je suis pas sûr parce que ça me paraît.
Il y a le mot analogique, ça ferait penser au bruit, ouais, c'est vrai.
Eh bien, il y avait une question de vue, car visuelle, mais en fait, c'est plus relié à la douleur. Et il s'agit des petites échelles de 1 à 10 pour les enfants où il y a un petit smiley qui a très mal, de plus en plus mal jusqu'à 10, qui leur permet donc de, d'associer leur douleur de 1 à 10, vous voyez?
Ah, d'accord.
Ce qui est très biaisé d'ailleurs, je crois.
Biaisé, c'est-à-dire
enfin,
en fonction de la personne, ce sera
pas du tout cohérente.
Ah oui,
parce qu'en fonction de la personne, ça veut rien dire.
Ouais.
Mmh. C'est la résistance
bon,
de chacun.
C'est bon pour avoir une échelle, vrai, quoi, pour avoir
mais
un
peu chez, bon, je sais plus le nom, mais je sais qu'ils avaient une autre, un autre type d'échelle, justement, comme ça. Mais ils se basaient sur des hormones dans ton cerveau, qui sont justement associées à la douleur. Et en fait, ils regardaient le taux de ces hormones que t'as, et c'est à peu près ton niveau de douleur.
Ok.
Et ça permet d'avoir un vrai repère physique plutôt que quelque chose du ressenti.
Oui, alors ça, c'est les petites frises qu'on met en maternelle, plastique.
Ouais, voilà.
Bon, voilà, rien de fou non plus. Quatrième question. Quelle est la valeur arrondie de la vitesse de la lumière dans le vide?
300 000 mètres secondes.
3,9 mètres secondes. Non, 9, 12.
3,9 quoi?
Mètres par seconde.
Tout ce qui est physique, chimie, et sciences, c'est mort.
C'est pas 300 000 mètres
la
secondes.
Vitesse de la lumière.
Attends, je l'ai vu là.
Ah non, ouais, enfin de la vitesse.
C'est combien?
Oui, de la lumière dans le vide. Et alors, en fait, Radou, il a presque trouvé, sauf que son unité n'est pas bonne.
C'est kilomètres.
En fait, c'est pas la vitesse tout court, c'est la vitesse dans le vide. Je crois que c'est la vitesse lumière, autrement appelée, non?
Célérité.
3,
la célérité.
Bah oui, la sélectée, c'est et pas 3,0 fois 10 puissance 9.
C'est 300 000 km par seconde.
Ah, bon, j'avais presque, j'ai dit mètre.
Et ouais, ce que tu cherchais aussi, il me semble que c'est la vitesse de la lumière. Enfin, oui, c'est ça, il me semble. Cinquième question, dans quelle ville nous pouvons marcher sur la place de Trafalgar?
Oh non, ah non.
Hein? Non, dis.
À Londres.
À Londres, c'est exactement ça.
À Londres,
oui, en Angleterre, bon. Mais oui, à Londres, c'est encore mieux. Et c'est exactement ça. 6. Quelle variété d'arbre est associée au nom de Sylvestre?
Les pins?
Oui, le pin, exactement. Très forte, Lucie.
Les sapins.
C'est vrai que c'était pas évident. 7. Que désigne un procès par contumance? Par contumace. Sérieusement? En fait, je sais plus si c'est contumace ou contumace, mais bref.
Et c'est quoi les questions? Enfin, alors, c'est oui, quoi les choix?
Du coup, déjà, vous savez pas, d'accord. Donc, c'est soit un procès joué d'avance, soit en absence de la personne jugée, soit dirigé par une personne non-juge, soit un juge qui... ou c'est un juge qui dirige l'enquête.
La deuxième proposition.
Moi, quand la personne n'est pas là.
Une personne non-juge, moi, je dirais.
Personne n'est pas là.
Ouais, quand la personne n'est pas là.
Et bah, c'est ça, en absence de la personne jugée. Et là, on dit que c'est un procès en accoutumance.
Donc, par exemple, quand la personne est morte?
En accoutumance.
Ah non, non, c'est de l'inverse.
Alors, non, ou alors quand elle est en fuite et qu'elle est, tu vois, elle est partie du pays, etc.
Oui, c'est l'inverse.
Okay.
Oui, voilà. C'est l'inverse, j'avais.
Ouais, elle est en fuite.
Voilà, exactement. Au poker, comment appelle-t-on la réunion de trois cartes de même valeur? Si vous en souvenez comme ça, après vous trouverez avec les réponses, évidemment, mais.
Aucune idée, personnellement.
Un flush?
Non, c'est 5 flush. Je crois que c'est 5.
5, c'est pas Royal Flush?
Non, c'est avec.
Oula,
roi,
non.
C'est avec Roi. C'est avec les
Royal. Ah ouais. Royal. Ouais, ouais, c'est ça. Il y a une histoire d'ordre et tout et de couleurs. Eh bien, donc, je vous donne des propositions, vous trouverez tout de suite. 1. Le bureau lent. B. La quinte flush. C. Quinte. D. Full.
Attends, c'était quoi la première?
Le brelant.
C'est quoi le C?
C'est full, je crois.
C'est la quinte.
Moi, je dis full parce que c'est
la brelante. Allez.
Ah ouais, mais je pensais que c'était évident. Mais non, du coup, il s'agit du brelant.
Let's go, Ashley.
Le full, c'est 4. Vous voyez, dans les yams, là.
T'as pas dit 4?
Ah, il dit 3.
Ah non, j'ai dit 3.
3, ok.
J'espère que j'ai pas dit 4.
Non, t'as dit 3. Non,
okay. Ouais, t'avais bien dit 3.
J'ai mal compris.
Ok, ouais, non, donc voilà, 4, c'est bien le full. C'est bien, du coup, il a permis de piéger tout le monde.
Sauf moi.
Je l'aurais pas eu, de toute façon, trop.
Voilà.
Je crois que je joue pas assez au poker, encore.
Moi, c'est pas trop.
Deuxième question, lequel de ces plats ou produits n'est pas réputé pour être une spécialité lyonnaise? A, le saucisson brioché. B, la quenelle. C, le petit beurre. D, la tarte à la praline.
Le saucisson brioché.
Ouais, la B. Aussi.
C'est la B. Je sais, c'était quoi la B?
La quenelle. La
je quenelle, crois que c'est ça. Hein.
La quenelle n'est pas une spécialité lyonnaise.
Si, l'autre, celle d'après.
Le petit beurre.
Oui, voilà ça.
Le petit beurre, c'est pas une spécialité lyonnaise.
Pour moi, non.
Pour moi, si. J'aurais dit la quenelle, moi.
Moi, j'aurais dit la quenelle, petit
d'accord. Donc, c'est le petit beurre qui est une spécialité nantaise et non lyonnaise. La quenelle, franchement, je pense c'est vraiment le truc le plus réputé pour Lyon, il me semble. Voilà, saucisson brioché, j'avoue, je sais pas à quel moment.
Ah, si, je le sais parce que c'est Agathe, elle m'en a parlé.
Saucisson brioché?
Oui.
Et c'est bon?
Aucune idée.
C'est quoi? C'est une saucisse dans une brioche?
Je sais pas.
J'imagine, du coup, oui.
Un hot dog, quoi.
Et la tarte à la praline, j'avoue.
Je te conseille de plus aller à Lyon, alors.
Non, ça a l'air bon. Ça a l'air bon. On peut faire une deuxième question, allez, une dernière. Combien de pattes une abeille possède-t-elle?
6, 8, 6,
je crois.
Oui, 6.
6.
Et c'est bien 6. 6 pattes. C'était très drôle de vous voir comme ça en panique. Et bien voilà, c'est tout pour moi.
Et bien, on a encore appris plein de choses, hein, franchement. C'est toujours très drôle les quiz. Parce que c'est drôle.
Là, ça fait interagir, hein.
C'est drôle parce que c'est drôle.
Voilà. Et tout de suite, on écoute Hook de Modissé.
Hello, hook, 갈고리, hook, hook, 갈고리, 뒷구이로 당겨봐라, 쭉쭉, 자글림, 루사게 자꾸 늘리지 마, 다 수비자 자세, 허점 노력해, 불신이 고개, hook, hook, 이건 무슨 맞게 먹은 장면, 처럼 예상한 데 무슨 패턴, 이제 이미 깊이 빠진 김이 새기 전에 미리미리 짓게 끊어놔라, belly, belly, belly. Rhythm flow, we're gonna give it all tonight. 꽃처럼 피어나는 별 빛도, we're gonna let it out now. Don't ask who I know where this is on that. 저 발이 to the answering. 이 순간만큼 함께 그대 눈으로 빠져버릴 테니. Who? What's gonna walk it out? What's gonna see the ground out? What everybody want out? Just hook, 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 hook. Don't stop the melody. I know this is a melody. I take the symphony. Let's just hook, 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 hook. 지금 lockdown 돼버린 이 공간에 터지는 성관 파장을 일으켜 누구나 녹음한 그 사인 조초파 이 모든 걸 폭발시켜 다 blow you up. Go break all the rules made today. 버퍼비 전 발라도 돼. 핸들로 빛과를 분비 붙들어 매 정신없이 다 이끌어지나.
L'âge bête sur RCN. On est de retour dans l'âge bête sur RCN et tout de suite on écoute Axel sur les trois monstres du folklore irlandais.
Alors, donc aujourd'hui, je vais vous parler de trois monstres du folklore irlandais. Alors, c'est surtout la mythologie celtique, donc c'est l'Irlande. Je vais commencer avec la Banshee. Donc bon, il y a plusieurs façons de l'écrire, mais les autres, je sais pas trop comment on prononce ça. Ça se traduit un peu par femme du site, et le site, c'est un autre monde.
D'accord.
Donc, en fait, les Banshees, c'est un monstre à l'apparence féminine qui vient crier pour annoncer la mort de quelqu'un.
D'accord, ok. Ok.
Bon, j'ai pas trouvé énormément.
Des sortes de... Non, ok. Ok, ok.
Juste qui vient, qui... Il me semble qu'elle crie sur quelqu'un pour lui annoncer la mort d'un de ses proches, futur, qui est pas encore arrivé, quoi. Quelqu'un qui est pas encore mort, mais qui va bientôt l'être.
Ah, d'accord. Elle vient annoncer la mort.
Voilà.
Ok.
Bah, c'est à peu près tout ce que j'ai trouvé, moi, en tout cas, parce qu'il n'y avait pas grand-chose. Donc, bon, je vais passer au deuxième. Alors, là, c'est en Écosse aussi, celui-là. Le Cat Sid, ou Cat Sid, je sais pas trop comment ça se prononce, il y a des accents bizarres. Là, il a un accent.
Ah ouais.
C'est un peu une créature légendaire. Donc, ça vient encore de la mythologie celtique.
Ok.
Et ça ressemble à un grand chat noir avec une tache blanche sur la poitrine. Et il y en a qui disent que les fantômes, donc que c'est les fantômes là, c'est des fantômes un peu les chats. Et ils hantent les Highlands.
Ah donc, oui, les Highlands.
Oui.
Ok.
Donc, c'est le, si je me trompe pas, c'est le haut de l'Irlande.
Il me semble, oui.
Dans certains folklores, ils considèrent que les chats là, c'est des sorcières qui sont transformées en chat.
En vrai, c'est un peu mignon.
Bah, en vrai, là, comparé celui de la dernière fois, franchement, ça va. Comparé,
je connais
plus le nom du monstre de la dernière fois, mais pour l'instant, ça va. Il y a pas de tueur.
Ça me revient pas.
Je sais qu'il a tiré les gens pour les manger, en tout cas.
Ah oui, c'était un truc comme ça, ouais.
Bah oui, c'était super.
Le drac, cool, voilà, le drac.
Ah oui, le drac, c'est ça.
Et le dernier, le Fuat, donc ça, c'est la gaélique écossais. C'est gaélique écossais. Alors, j'ai pas réussi à trouver ce que ça voulait dire gaélique. Si je comprends bien, c'est un peu comme les Celtes. C'est un
Ok.
Voilà. Donc, ça se traduit par la haine. Et ça se prononce à peu près en anglais Vau. Ça veut dire le F, il se prononce en V, un peu comme en allemand. C'est bizarre, mais. Et donc, ça désigne des esprits malveillants dans le folklore des Highlands encore, écossais et dans le folklore irlandais. C'est généralement associé à des petits esprits aquatiques. Donc, c'est comme le drac, encore une fois, ils ont plusieurs apparences. Souvent, c'est quand même humanoïde, mais parfois, c'est difforme ou amorphe, avec soit des pieds palmés, soit des apparences de femmes, un peu comme les banshees.
C'est ce qu'on peut assimiler à des yokai, en fait, un peu.
Ouais, un peu pareil, mais là, c'est... Je sais pas, j'ai pas trop vu d'images, mais
okay.
Les yokai, ça a l'air beaucoup plus varié. Enfin, il y en a énormément de types de yokai.
Comme les Pokémon, quoi.
Ah ouais, non. Là, il y a des différences quand même. Et donc, ça a des cheveux jaunes et c'est vêtu de vert, souvent.
D'accord. L'image est un peu étrange.
Ouais, j'arrive pas trop à m'imaginer, mais
c'est ça.
Pourquoi
bizarre,
pas
on dirait Pokémon sorti par un enfant de 4 ans.
Non, et les yokai et les Pokémon, c'est pas pareil, quand même.
Ah, ok. Pokémon s'inspirait des yokai.
Donc
c'est pour ça. Bref.
Moi, j'ai plus rien.
Ok, bah, c'est parfait. Okay, bon,
et bah,
super intéressant.
Trois monstres plutôt variés, plutôt étranges, très étranges même, je dirais. Et donc, tout de suite, on écoute Mushk de Next.
Ah oui, alors non, on va peut-être louper, on va peut-être zapper là. On est à 25 minutes, c'est ça, Radu?
24.
24, bon, on va passer directement à Radu.
On écoute Radu sur les processeurs photoniques.
Voilà. Bon, on va pas se mentir, votre PC de gamer, c'est pas une machine de guerre. C'est un radiateur qui fait tourner Cyberpunk. Mais posez votre main dessus sur votre tour après 2 heures de jeu, et on peut y faire cuire des œufs.
Un bon pavé de bœuf.
Voilà, ou un bon pavé de bœuf. Pour dire que c'est chaud, voilà. Et en fait, l'électronique actuelle qu'on utilise, donc sur du silicium, a atteint, entre guillemets, son mur thermique. Les électrons, c'est un peu ce qu'il y a à l'intérieur de votre ordinateur quand ça circule dans votre processeur, voilà. Et
le truc, c'est que ils passent dans des fils très étroits. Genre, c'est des trucs du nanomètre.
Mais en même temps, les électrons, c'est pas gros.
Et en fait, le problème, c'est que plus c'est étroit, plus il y a de la résistance, et plus ça chauffe.
Ok.
Et en fait, ça chauffe, ça ralentit, et ça fait exploser la facture d'électricité.
Oula.
C'est, ouais.
Je crois que ça faisait exploser le PC.
Non, non.
C'est pas ce point-là.
Ah, ils sont quand même faits pour, mais voilà, quoi. Ça, oui, oui. Ça demande beaucoup d'énergie pour, au final, un rendement qui n'est pas forcément aussi bon. Parce qu'il y a beaucoup, il y a une grosse partie de l'énergie du calcul qui se traduit en chaleur, du coup.
D'accord.
Et en fait, actuellement, du coup, comme je disais, pour te faire circuler nos informations, bah, les électrons, c'est assez lourd quand on compare à l'échelle des atomes, bien évidemment. Et en fait, le futur, c'est un peu la photonique. On remplace l'électricité par la lumière.
Mm-hmm.
Imaginez une autoroute. L'informatique actuelle, c'est la 7, un samedi de départ en vacances. Ça bouchonne, ça s'énerve, ça avance à 2 à l'heure.
Ça klaxonne.
Ça klaxonne, ça s'énerve, voilà.
Ça se bat.
La photonique, c'est la même autoroute, mais tout le monde est en jet privé et vole à la vitesse de la lumière sans jamais se croiser.
Pas très
en plus, la lumière peut se superposer. Et ça, c'est très intéressant parce qu'elle a des propriétés, tu vois. Je sais pas si vous vous rappelez ceux qui ont fait physique, mais en gros, tu peux avoir deux ondes lumineuses et si elles ont et si elles se croisent, en fait, elles vont créer une autre onde combinée des deux. Voilà.
C'est comme un peu pour le son.
En fait, on peut envoyer 50 infos sur le même canal juste en changeant la couleur. Le multiplexage, entre guillemets. Ton processeur devient un arc-en-ciel de puissance, littéralement. En gros, t'as plein d'ondes de lumière qui circuleraient comme ça.
C'est trop beau.
Bon, on pourrait pas le voir parce que tout serait fermé, mais globalement, ce serait comme ça à l'intérieur. Du coup, ce serait trop stylé. Et en fait, je voudrais faire un lien actuel avec l'actualité. On nous bassine avec ChatGPT et les IA qui vont dominer le monde. Mais le problème, c'est que ces IA sont des gouffres énergétiques. Un seul data center consomme autant qu'une ville comme Grenoble. C'est énorme.
C'est quoi un data center?
Un data center, c'est,
C'est
un lieu où on met plein de serveurs.
Plein de choses.
Oui, c'est vrai. Oui, c'est ça.
Des serveurs.
Oui.
Avec du refroidissement et, bon, c'est là-bas qu'il y a les centres de calcul, quoi. Et en fait, la révolution serait que les processeurs photoniques, comme ceux de chez Light Matter, qui est une entreprise qui travaille sur ça, font les calculs mathématiques, les multiplications de matrices pour les matheux en terminale comme nous, presque instantanément et sans consommer d'énergie ou presque. Pourquoi? Parce que la lumière ne frotte pas. Elle glisse. Au lieu de s'accrocher, de créer des résistances, juste elle glisse à travers.
Et ça pourrait régler ce problème d'énergie?
Bah, en fait, ça fait que ton processeur, il a quasiment aucune chauffe.
Mmh.
Parce que c'est juste de la lumière. C'est plus léger. Donc, techniquement, on peut miniaturiser. Et c'est aussi plus petit. Donc, techniquement, on peut encore plus miniaturiser. Et, ça permet surtout d'avoir des calculs plus rapides. Parce que les ondes, vu que c'est des fréquences, globalement, enfin, c'est tout un spectre avec plusieurs fréquences, mais on pourrait juste combiner deux fréquences, par exemple, pour avoir une autre fréquence, et cette fréquence correspondrait à un signal binaire. En gros, tu pourrais envoyer 0,1 et 0,0 en même temps,
ouais.
Et vu que les ondes, elles se fusionnent entre elles, ça te sortirait ton résultat 0,1, 0,0, mais beaucoup plus rapide que le ferait des électrons avec des transistors.
Ah oui, okay. D'accord.
Bon, faut avoir fait physique pour comprendre ça.
Ouais, c'est des domaines assez techniques. Mais en gros, dites-vous que ça va être très bien. Parce que l'avantage long terme, c'est qu'on pourra réduire encore plus, donc avoir encore plus de puissance de calcul. Ce sera plus rapide et on aura moins d'énergie à consommer pour ça. Et ce sera plus rapide.
D'accord. Okay.
Bon, j'ai une question, Radu. Est-ce que ça t'a impacté que les prix des processeurs ont explosé?
Alors, c'est pas les processeurs qui ont tant explosé que ça, c'est surtout la RAM.
C'est la RAM?
C'est la RAM. Alors, c'était pas le sujet que je voulais faire, mais en gros...
Il l'a expliqué la dernière fois.
Un peu, oui, la dernière fois. C'est, en fait, c'est une fausse pénurie qui a eu lieu à cause du président d'OpenAI, qui, je crois, d'ailleurs, s'est fait virer entre-temps, et remplacé, mais je suis plus trop sûr de l'info, qui, en fait, avait dit qu'il voulait prendre 40% de la RAM du monde.
Ah, ok.
Et en fait, il a pas du tout fait, mais vu que ça avait fait la panique chez les GAFAM, donc les gros acteurs, ils ont acheté en masse très cher, et du coup ça a fait une inflation virtuelle.
Ok.
Voilà.
Eh bien, merci Radou. Merci de nous avoir écoutés. Ouais. Nous avons enregistré cette émission depuis le lycée Marquette. Salut.
Salut.
Salut.